Passage, corps et territoire. Sur une invitation de l'association Actualité pour la psychanalyse à Troyes. Une lecture du collectif à voix haute diffusant les textes de femmes, patientes, soignantes, psychiatres, psychanalystes, bénévoles, directrices, écrivaines, théoriciennes, secrétaires, ayant traversé l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, ici et ailleurs, de la première moitié du XXe siècle à aujourd'hui. Pour cette nouvelle lecture collective, nous avons choisi de déplier la question du passage, d'une discipline à une autre, d'un territoire à un autre, et la façon dont y circulent les corps dans ce que l'on pourrait nommer une poétique du désir. Pour cela, nous avons rassemblé les voix d'Hélène Chéniaud, Marie de Pusset, Lise Gaignard, Rosemarie Lepage, Johanna Mazo, Agnès Masson, Ginette Michaud, Daniel Rouleau, Daniel Civadon et 13, qui, par leurs travaux, contribuent à faire vivre la psychothérapie institutionnelle, tant sur le plan clinique, théorique, esthétique que, évidemment, politique. Passage Corps et territoire, un assemblage de textes lus par Sybille Chevreuse, Karine Landrin, Léna Monnier, Gradiella Suzin et Agathe Boulanger. Johanna Mazo, du collectif Avec des femmes, soins et politiques autour de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, 1930-1960, dans les cahiers du genre, 2022.
La mémoire qu'il est temps de faire entendre aujourd'hui n'est pas seulement celle d'une autre forme du collectif, où les femmes sont bien présentes. Il y va surtout d'une autre mémoire du politique au cœur de la psychothérapie institutionnelle. Car à Saint-Alban, l'engagement socialiste et féministe de la psychiatre Agnès Masson, tout comme la lutte pour survivre sous l'occupation de la psychiatre Germaine Balvé, ou encore l'engagement dans la résistance des religieuses de la psychothérapie institutionnelle, ne sont pas des expériences homologues à l'engagement politique des médecins de la psychothérapie institutionnelle. C'est une autre manière de bouleverser les vieilles institutions.
Hélène Chéniaud, qualité de vie et équipe soignante, dans l'information psychiatrique, 1992.
Je voudrais dire que j'apprécie l'ambiance de ce collège qui m'était inconnu, que je m'y sens bien, même quand j'ai le trac, avant d'essayer de faire un exposé sur des questions auxquelles je ne connais rien. Oui, malgré cela. Je ne sais pas quelles sont les démarches pour faire partie d'un tel collège. Cela doit être difficile puisqu'on constate, quand on y vient, une telle qualité. Pourquoi est-ce que j'associe difficulté et qualité ? Moi-même, je n'en sais rien. J'ai été chargée, avec autant de souplesse que de courtoisie, par la lettre de notre ami Lambert, de qualité de vie et équipe soignante. Je l'ai dit, je ne connais rien à qualité de vie. Peut-être parce que je n'ai pas travaillé la question ou parce que personne n'a d'outils là-dessus. Je ne connais pas grand-chose à équipe soignante, peut-être parce que j'ai trop travaillé à cela et que ça m'a rapporté des incitations à la modestie sur le savoir qui pouvait être le mien à ce propos. Quand je parlais de l'ambiance agréable, j'aurais dû préciser que ce qui m'a été agréable, entre autres, c'est non seulement cette ambiance amicale, mais aussi cette ouverture qu'on constate ici. Une ouverture à ce que dit l'autre, à la discussion. Une ouverture manifestée par l'accueil de notions nouvelles ou de notions qui ne sont pas notre objectif habituel à nous, par exemple que ce soit de recherche, soit d'intérêt, et une disposition à se placer, sinon à la place de l'autre, en tout cas à ne pas se dérober, à la place d'interlocuteur, quand cet autre nous interpelle. Cette disposition est loin d'exister dans beaucoup de congrès et de colloques, alors je crois qu'il faut ici la saluer.
Agnès Masson, Les éléments du contact de l'aliéniste des services publics avec ses malades, 1952.
Il faut se faire aimer des malades. À Rouen et à Alençon, je passais dans mon service matin et soir, souvent sans escorte et sans blouse, en amis. Je m'asseyais parmi eux et je parlais avec eux un peu de tout. J'étais l'ami qui console, qui aide quelquefois discrètement et qui écoute toujours. J'ai toujours écouté patiemment mes malades. Ils le savent. Et n'essaie pas de m'accaparer sous un flot de paroles, sachant qu'ils me retrouveront lorsqu'ils le voudront et que les copains attendent. Je ne souris pas de leur maladresse verbale, ni même de leurs idées pathologiques. Si parfois je plaisante avec eux comme avec des amis, jamais je n'ironise à leurs dépens. Je les traite comme je voudrais être traitée si j'étais à leur place. Ce qui est une vérité très simple et parfois oubliée. Même en prenant un nouveau service, et j'ai surtout eu des services d'hommes, j'allais voir en cellule, là où il y a encore les dangereux, m'asseyant à côté d'eux sur leur paillasse et leur parlant gentiment. Jamais je n'ai été frappée. Jamais non plus je n'ai admis qu'un infirmier s'interpose entre un de mes malades et moi. Je m'intéresse à leur vie professionnelle et à leur famille. J'ai essayé d'acquérir une certaine connaissance de la vie ouvrière et de la vie agricole, sur le plan technique et sur celui des problèmes qu'elle pose. Les médecins du travail le font bien. Parler aux mineurs de la vie à la fosse, au fraiseur de son outil, au paysan de son tracteur. Vous les verrez s'éclairer. Nos malades saisissent bien en nous, peut-être plus facilement que les bien portants, nos défauts et nos qualités. La simplicité, le calme, l'égalité d'humeur et le sourire sont les qualités qu'ils apprécient le plus. Si un bon sourire répond au nôtre, nous avons gagné une bataille. Hâter une sortie ou une réadaptation intra-axillaire.
Lise Guignard, faire le ménage ensemble, c'est la base. Premier épisode du Travail au ras des pâquerettes, publié par Jeff Clack, 2018.
Au bord d'un lieu de soins psychiatriques, dans une grande construction improbable datant des années 70, qui sert de bar, de salle de concert, de lieu de passage, toujours ouvert, groupé un après-midi d'hiver auprès de la grande cheminée, j'avais été invitée pour parler du travail, dans le cadre d'un séminaire ouvert au public dans l'école de psychothérapie institutionnelle de la clinique de la Chênaie. Dans l'élan, j'avais accepté avec gratitude de prendre le thé et des petits gâteaux en compagnie des pensionnaires de la clinique, que la question du travail attirerait peut-être. On ne savait pas combien de personnes viendraient. Elles sont venues nombreuses et sont restées suspendues aux lèvres de toutes celles et ceux qui ont pris la parole, même quand il ne restait plus rien des excellents gâteaux de l'atelier pâtisserie. Un patient ouvre la discussion. C'est nous qui contrôlons notre corps. On est fatigué le soir des efforts de la journée. Il nous donne là l'occasion de saisir l'effort qu'on fait toutes pour vivre avec les autres, fondé par les autres, tous les jours. Il ajoute que c'est valable pour chaque geste que fait chaque humain. Le moindre geste de Deligny est ici étendu à l'ensemble de l'existence, à ses fondements. Tous les gestes sont adressés aux autres, au milieu des autres. On ne peut pas dire mieux le fondement du travail suivant la définition qu'en donnait Claude Weil. Toute production de services ou de biens entraînant des liens entre des personnes. Comment faire et où trouver la force de persévérer? Chaque matin, la plupart du temps, quand on n'est pas sous le coup d'une angoisse majeure comme peuvent l'éprouver trop souvent les patientes de la clinique, C'est naturel, évident, on fait comme on doit faire, on se lève, on fait le café, on se lave plus ou moins, on prend les transports en commun ou on écoute la radio dans sa voiture au milieu des effluves de diesel. Et la vie passe. Sans conscience particulière de nos moindres gestes. Ce jour-là, au Boissier, en compagnie de personnes qui ont des soucis avec les évidences de la quotidienneté, celles pour lesquelles chaque détail compte, la discussion a continué à propos de la toilette, du ménage, des relations avec les autres à maintenir à bout de bras. Tous ces gestes qu'on peut aussi oublier pour se glisser dans le flux, en permettre et en faire durer silencieusement les rapports de production. Cet après-midi-là, tous ces gestes étaient minutieusement décrits, commentés. Faire le ménage ensemble, en parler autour d'un verre quand on a terminé, c'est la base. Quelques jours plus tard, je me trouve invitée à un débat sur l'insertion par l'économique dans une salle comble du cinéma d'une petite ville. Tout le gratin des bonnes gens à la tête des associations du département qui accueillent des personnes éloignées de l'emploi, on ne saura pas, et la réunion va pourtant durer plus de 2 heures, qui sont ces personnes éloignées dont on parle, des chômeurs, des chômeuses, des étrangers, des étrangères récemment contraints à l'immigration, des supposés malades mentaux, on n'entendra parler que d'accidentés de la vie. Il pourrait leur être arrivé n'importe quoi, on les rassemble sous cette expression assurantielle. On gomme, on oublie, on efface. Même technique quand je demande ce que ces personnes font comme travail. On me répond que ça n'a aucune importance, de toute façon elles ne referont probablement pas ce qu'elles sont en train de faire et que ça dépend des contrats que les associations passent avec leurs clients. Que c'est pour leur donner une raison de se lever le matin, leur apprendre le savoir-être et que les savoir-faire c'est autre chose. Ça compte pas à cette étape-là pour ces gens-là. Pendant toute la soirée, seuls des directeurs ou des présidents prennent vigoureusement la parole. Les autres se taisent. Des syndicalistes présents, des militants bien connus, ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi je pose des questions comme ça? Après tout, c'est déjà pas mal l'insertion, non? Quelques notables des tutelles, invités et venus, est-ce que cette soirée comptera dans leurs heures de travail, ne disent rien, affligés par mes questions trouble faites. Une jeune infirmière en psychiatrie, très avisée, demande pourquoi les supposés bénéficiaires de tant de bonnes œuvres n'ont pas participé à l'organisation de la soirée. Stupeur. Incompréhension. Il y en a peut-être dans la salle, répond un président, qui ne saisit pas la différence entre être dans la salle fondue dans le public et avoir mis en place les débats, les invitations, les conditions de prise de parole, etc. Et en tout cas, s'il y en avait dans la salle, il et elle n'ont pas bougé. Et je les comprends. Si je n'avais pas été intervenante, je serais restée sans voix devant les clichés du management moderne. Nous, eux, nous supérieurs, eux inférieurs. Heureusement qu'on est là, nous, grandes âmes, plus ou moins bénévoles ou très mal payées, pour eux, le vivier des éloignés de l'emploi. Personne n'est inemployable, dit un autre intervenant. Pas de chance. Tout cela se termina autour d'un pétillant petit four pour la touche de convivialité, mais aucune des personnes éloignées de l'emploi qui les avait cuisinées dans une de ces entreprises d'insertion par l'économique n'était là pour y goûter. Ils n'avaient pas, nous dit-on, de moyens de transport pour rentrer aussi tard chez eux. Et en aparté, un président me dit que ce qui l'inquiète, lui, c'est que le niveau des gens qu'on accueille tire les encadrants vers le bas. Comment ne pas vomir? En pensant que tout près de là, vivent, discutent des philosophes conscientes de l'effort de la vie en commun. Il y en a qui travaillent à des vécus. On n'est pas riche, voilà, avait conclu en souriant auprès de la cheminée une patiente en lutte permanente pour une vie quotidienne consciente, tellement plus présente que les insérreurs courroucés, et qui aurait bénéficié d'entendre un autre patient nous dire que le travail est père de toutes les soumissions. Pas prêt de se laisser insérer, celui-là.
13. Charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique. Édition La Découverte, 2023.
Tout en bas de leur pyramide, il y a cette femme qui balaye. Elle a un chariot de ménage et vient faire le sol tous les matins. Elle entre, ça lui prend environ 2 minutes 30, équipée du grand balai en T qu'elle manie adroitement. Au bout du manche en plastique bleu, sur une grande tête en plastique bleu, une lingette blanche à usage unique. Elle la jette sûrement en fin d'étage. Elle travaille en chantant. Elle chante pour elle, pas fort, machinalement, un peu comme pour envelopper sa tête d'une berceuse. Elle doit penser avec de la musique. À chaque fois que j'entends qu'elle arrive, je m'assois dans mon lit pour dire bonjour et la regarder. Son passage dans ma chambre, ça fait une activité. Les journées sont si statiques. Un peu de mouvement, de fluidité, une présence neutre, ça me fait beaucoup de bien. J'apprécie énormément sa voix. Le fait qu'elle entre, qu'elle chante doucement. Elle ne le sait pas, mais cette femme est mon rayon de soleil. Un matin, elle entre et ne chante pas. Ça m'étonne. Quand je lui dis bonjour, je vois qu'elle a une tête de celle qui ne va pas bien. Je lui demande si les chansons seront de sortie aujourd'hui avec le ballet. Elle s'arrête un instant, me regarde et me dit que non. Qu'elle vient d'entendre des choses qui ne se disent pas. Elle reprend. Au sol, contourne l'autre lit, inoccupée car mon changement de voisine est en cours. La nouvelle arrivée est pour cet après-midi. Elle redit dans sa bouche une ou deux fois qu'elle vient d'entendre des horreurs. Et alors qu'elle a presque fini, qu'elle approche de la zone près de la porte, je lui dis doucement que j'espère que ça va aller et que le soleil viendra demain. Elle stoppe de nouveau, me regarde, pose un coude sur le balai et m'explique que l'occupante de la 12 vient de lui tenir des propos très violents. Je comprends qu'elle vient de subir une agression verbale intense. Elle me donne des morceaux de phrases. Ce sont des propos racistes. Elle est sous le choc. J'essaie de la réconforter un peu. Je lui dis de relater à ses collègues le caractère raciste de l'agression pour avoir du soutien. C'est là que je comprends qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas accès au temps d'échange des autres employés. Elle passe balayée dans le service tous les matins, mais elle n'est pas considérée comme faisant partie de l'équipe. Personne ne lui a dit que cette femme-là insulte souvent, qu'elle crie sur tous les employés, qu'hier elle a jeté son plateau au pied de l'infirmier du midi. Elle est la femme qui balaye. Elle est en bas de la pyramide. Sûrement trop bas pour être dans leur réunion d'équipe. Alors, je lui dis moi-même que la 12 est souvent violente, qu'elle insulte beaucoup, qu'elle n'est pas là par plaisir et qu'elle a ses raisons de penser qu'elle est maltraitée ici. Je lui dis qu'elle envoie des méchancetés un peu à tout le monde. Je lui dis aussi qu'une agression raciste, ça reste une agression raciste, qu'elle doit signaler. Mais dans ma tête, je suis sûre que le choc de la femme au balai ne dérangera personne. Je ne sais même pas s'ils savent que d'habitude, elle travaille en chantant. Je me demande un instant dans quel camp elle est. Je sais qu'elle n'est pas dans le mien parce que quand elle a fini, elle s'en va. Je me fais la réflexion que l'autre camp manque vivement de solidarité. Même entre eux, ils se considèrent assez peu. Je sens que je reste solidaire de la femme de la 12, et ça me perturbe. Si l'on s'en tient aux affinités, j'en ai avec la femme au balai, mais aucune avec celle de la 12. Le pays psychiatrique a ses propres règles. Garder en tête ces histoires de camp, c'est de la survie. Je suis d'un côté, ce côté est fixe, et le pouvoir n'est pas de mon côté, donc prudence. Malgré tout, ce jour-là, c'est moi qui me suis chargée de faire les transmissions à la femme qui chante.
Daniel Rouleau, article L'Avec schizophrénique dans la clinique lacanienne 2009.
Avec les schizophrènes, je crois qu'il faut parler de l'avec. L'avec schizophrénique est une sorte de sous-ensemble flou, variable selon les moments et les circonstances. Chez le schizophrène, l'avec est une priméité, un tonal qui s'établit en un éclair, disparaît, revient. Le problème est qu'il y a autant de tonal ou d'avec que de schizophrène. Avant son arrivée à la Borde, Cécile, une schizophrène très intelligente, a arpenté jour et nuit Orléans pendant plus de 10 ans, un petit sac à dos en place, se nourrissant des fruits verts des terrains vagues et de fonds de pots de yaourt qu'elle trouvait dans les poubelles, sans oublier les boîtes de crabes chatka qu'elle fauchait dans les supermarchés. Elle était en psychothérapie duelle et de groupe. Son thérapeute, partant en retraite, l'envoie à la Borde. Elle est reçue par un confrère masculin. Elle n'aime pas les mecs qui ne comprennent rien. Elle les appelle des beefsteaks. À la Borde, elle continue ses déambulations, sac à dos en place, toute la journée. Elle profite des vacances de son médecin pour venir me voir. Le sac à dos la propulse comme un petit moteur. Cette fois, il est plein de pommes qu'elle pique à la cave. Elle finit à la longue par trouver un lieu, son lit. Dans les débuts où je la vois, Cécile entre dans le bureau avec un enfant imaginaire qui joue dans la pièce pendant qu'elle me parle. Un beau jour, je remarque qu'elle n'a plus son sac à dos, mais elle continue à déambuler. Peu à peu, elle cesse ses déambulations et l'avec se précise avec moi, ce qu'elle nomme maintenant le transfert direct dans le réel. Et parallèlement, son avec vis-à-vis des autres se développe. Elle a pris Germain en amitié. Germain est un schizophrène jargonophasique. Elle dit qu'entre eux, il y a du constitué. Parmi mes ouailles, il y a aussi Hans, un avec très lointain, le compagnon de chambre de Germain. Il se plaint d'être réveillé à 4 heures du matin par Germain qui allume la lumière et lui demande des cigarettes. Des moniteurs, ça va de soi, comme dit Jean Houry, conseille à Hans de demander de changer de chambre. Mais Hans aime bien Germain. Il lui porte son chocolat et ses tartines le matin. Germain l'appelle papa. Alors, nous faisons une cellule de crise. Cécile, Hans et moi, en présence d'un moniteur du parc, nous reprenons l'ordonnance de Germain, de sorte qu'il ne somnole plus dans la journée et dorme jusqu'à 7 ou 8 heures du matin. Ce n'est pas une mince responsabilité que d'être pensionnaire à la Borde, dit Cécile. Elle veille aussi sur François, l'ex-terreur. Toujours au bord de l'explosion, François m'appelle maintenant par mon prénom. Il participe à l'atelier poterie, où il fait des sculptures, il va au marché de la ZUP s'acheter des fruits exotiques, à la piscine, et, avec ou sans papier, il est à l'heure à son rendez-vous. Un mercredi, où je lui avais donné rendez-vous à midi, je rentre d'une réunion, je passe chez moi, mon logement de fonction est situé au-dessus de mon bureau, et, surprise, je trouve François installé confortablement dans un fauteuil de mon salon. « Qu'est-ce que vous faites là, François ?» Il agite le papier sur lequel est noté le rendez-vous. « Ben, je t'attends. » « Mais il faut descendre. Ici, ce n'est pas mon bureau, c'est mon appartement privé. » François ne fera plus d'intrusion chez moi. Et tous les matins, il est à son rendez-vous de 10 heures. Parfois, quand elle est là, Cécile l'accompagne. Je crains encore que le face-à-face ne se dégrade en affrontement de toute puissance. Mais il est avec nous, à sa manière. Il rit, parle des australopithèques. Nous faisons son emploi du temps de la journée et ça marche. Il n'est plus agité ni violent. Enfin, sauf de temps en temps. Simone, l'inséparable compagne de Cécile, a un avec silencieux. Sa tête ne pense pas. Sa parole est absente parce qu'elle n'a jamais rien à dire. Nous restons souvent dans le silence, qu'elle appelle un silence porteur. Elle a perdu sa fille, qui s'est défenestrée 3 mois auparavant. Ce n'est pas une schizophrène, mais une psychose hystérique grave avec une quasi-paralysie des jambes. Je supporte assez mal ces longs moments de silence. Alors j'ai inventé un truc. Comme elle ne parle pas, je lui fais la lecture. Winnicott, Masoud Khan. Et surtout depuis qu'elle a perdu sa fille, dont elle ne peut évidemment pas faire le deuil, des articles de Roland Kuhn sur la dépression et le deuil. Elle réclame ses lectures qui, dit-elle, lui font des échos. Je n'oublie jamais la phrase de Freud qui affirme que les 9/10 de la pensée sont inconscients. Alors je compte sur le Durcharbeitung.
Agnès Masson, La vie sociale des malades à l'hôpital psychiatrique, l'expérience de Chalon-sur-Marne, 1948.
Augmenter le sens de la responsabilité. Augmenter la confiance dans les malades, ce qui ne supprime pas forcément la prudence. Vieux souvenir d'internat en province. Une malade s'évade, une mélancolique. Le canal est à quelques centaines de mètres, la noyade en perspective. Une seule malade capable de la rattraper, une jeune évadeuse de 17 ans. Je propose à mon patron de l'envoyer avec le trousseau de clés nécessaire sur les traces de la fugitive qu'elle ramène toute triomphante un quart d'heure après. On ne trompe pas la confiance inespérée que l'on vous accorde.
Dans la première scène du film « À pénombre » de Nazine Djemaï, en 2012, une monitrice décrit la clinique de la Borde et sa topographie.
Cet endroit se trouve au centre d'un territoire délimité par des lieux. À l'est, c'est la serre et le jardin. À l'ouest, c'est la salle de spectacle. Au nord, c'est le poulailler et les chevaux. Et au sud, c'est la garderie. Les 4 points sont à peu près équidistants du château et sont conçus comme des points de relais, de repos, de rencontres. Et peut-être aussi que pour celui qui était parti pour ne pas s'arrêter, ce sera un point d'arrêt.
Daniel Rouleau, L'Avec schizophrénique, édition Hermann, 2014.
Domaison précisait « Quand j'ai créé l'expression psychothérapie institutionnelle, j'avais en vue la mise en œuvre d'une pratique thérapeutique des maladies mentales qui prenait en compte et pour les moyens de traitement les faits concrets de l'institution. » La vie transcende le cadre, dit encore Hélène Chéniaud. Un certain nombre de principes de base se dégagent. 1. Le caractère provisoire de ce qu'on institue. 2. Le souci de mettre fin à une telle institution si elle se dénature ou avant qu'elle se dénature. 3. L'analyse permanente du fonctionnement institutionnel. Jean Houry ira encore plus loin en parlant d'analyse institutionnelle et de stratégie analytique. Je n'ai fait que décrire le contexte, l'ambiance, la sympathie, le respect absolu de l'autre, dans lequel ont été récoltés les fragments d'entretien duel qui précèdent ce chapitre. La qualité du contexte est une condition nécessaire pour traiter les patients, y compris en situation duel. Le filet institutionnel est toujours là. Et si une séance de psychothérapie bouscule un peu le patient, je sais que d'autres, patients et moniteurs, seront là pour lui. Reste le maître mot de Jean Houry, le précaire. Les ateliers, les activités ne sont pas chosifiées. Par exemple, l'activité four à pain ne fonctionne que si un groupe de patients et de moniteurs le réclament. De même, la forge. Quand un atelier marche trop bien, il faut le fermer, disait Domaison.
Marie Depucet, Dieu gît dans les détails, édition POL, 1993.
Je vais essayer de parler de l'Oise. Cela, au moins, je le lui dois. Je ne saurais décrire son visage, peut-être était-il beau. Nous étions tous victimes de la laideur qu'elle nous imposait. Le visage penché vers le corps tordu, souvent baissé, on le voyait mal. Son visage s'abolit, pour moi, non dans la difformité du corps, mais dans le sourire. Il est effacé, comme lavé par le sourire. Le sourire le plus brusque, le plus inespéré qu'il m'ait été donné de voir. Voir est-il bien le mot, d'ailleurs, de recevoir. Un jour, alors qu'elle avait causé un peu de désordre dans la maison, j'entendis un médecin dire aux gens de la borde rassemblés. Il faut bien reconnaître que les difficultés qu'on a avec Loise tiennent à l'horreur qu'elle nous cause, celle que causent les monstres. J'essayais de dire, mais c'est un des êtres les plus séduisants que j'ai... Mais vous avez vu son sourire ? Le corps était tordu par des chutes nombreuses. Il donnait enfin sens à l'expression de ma grand-mère, « Celle-là, elle est foutue comme un corps de chasse. » Il y avait une féminité troublante dans les hanches, pourtant, dans la minceur de la taille tordue. Les jambes étaient parsemées de poils, exprès. Je me rappelle ce sentiment. Elle le fait exprès, de montrer ce que les autres femmes cachent. Elle avait étudié les mathématiques, parents professeurs, dans l'ombre, rigide, effrayant. Ma mère disait, les enfants de professeurs n'ont jamais le droit qu'à une moitié de pomme au dessert. Un jour, elle avait eu un enfant, d'un autre malade de la borde. Les rapports sexuels sont interdits à la borde, fermement. Il en est de cet interdit comme de beaucoup d'autres, on fait avec. La grossesse de Loise, dans son corps tordu, avait dû échapper à l'attention de tous, et ensuite, sans doute, il était trop tard. Je la conduisais voir son enfant, son gamin, comme elle disait, dans la ferme des parents nourriciers. Un homme et une femme très beaux, chaleureux, avec plein de gosses autour d'une table en formica. Sur la table, des pommes. « Allez entre, ma fille !» disait le grand homme en prenant Loise par les épaules. Au bout de la table était le petit garçon blond, translucide, avec de grandes oreilles, que j'appelais le petit prince lapin. « Allez, va embrasser ta mère !» Il le faisait. Loise, assise à cette table haletante comme un animal traqué, je sortais et m'asseyais sur la balançoire dans la cour de ferme pour ne pas la gêner. Un jour, elle avait dit « Mais ne lui parlez pas à elle, c'est moi la mère. » Après, nous allions prendre un café, comme après une visite à l'hôpital. Il fallait l'avenir de ce café pour qu'elle ait le courage de voir l'enfant. Nous le prenions au village ou dans l'ombre de la cabane. Tous les soirs, j'allais lui parler dans sa chambre, l'accompagner au bord du sommeil. Cela me donnait un sentiment de paix inexplicable, comme si j'avais bordé mon enfant ou ma mère. Il y avait la douceur de la maternité entre elle et moi, entre et le mot. Elle avait des moments de violence, très brefs, maîtrisés. Elle cassait un rétroviseur, par exemple. Après, je la trouvais en train de manger une glace, tranquille, rigolarde même. « Ça m'a fait du bien », disait-elle. Quelque chose s'était mal passé avec celle qui la prenait ou qu'elle prenait. Un jour, j'avais fait devant elle le lapsus et elle avait éclaté de rire. En psychothérapie. Elle cassait un objet, très vite, puis s'asseyait, tranquille. Il y avait des jours où la journée était trop belle, trop pure, des jours d'été. Loise assise, haletante, dans la lumière des ciels de Loire, essayant de la supporter. « Il fait trop beau, lui disais-je, rentrons. » Elle m'en savait gré, m'adressait alors un très beau regard, chagrin, défait. Elle avait choisi la laideur. Les paysages éblouissants lui faisaient mal. Sans doute avait-elle décidé, est-ce le mot, d'incarner dans son corps exhibé, supplicié, l'indécision des sexes à laquelle elle avait été condamnée. Une moitié de sexe au dessert. Un jour d'été, dans sa chambre, elle se découpa un sein avec une lame de rasoir, entièrement. Elle était allongée sur le lit de l'infirmerie du parc. Fernande avait rassemblé les morceaux de sein sur un plateau avec de la glace. Elle me le montra, hésitante, perdue. Je haussai les épaules. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de ces morceaux ? Tout en songeant que le geste était humble, émouvant, je ne parvenais pas à me rappeler le nom de la sainte dont on représente les seins coupés sur un plateau. J'avais poussé des gens sur mon passage pour entrer. Les pompiers étaient là, l'un assis sur le lit, ne savait pas quoi faire. « Vous avez mal, mon petit. » Il répétait ça. J'étais assise au bord du lit et lui tenais la main. Elle semblait contente, comme un metteur en scène que tout soit à sa place, réuni. Elle me souriait, la main tremblait à peine. Elle me faisait penser à une reine. Quand les portes du camion du SAMU se refermèrent sur elle, j'essayais de courir après. Je ne sais rien des sentiments qu'éprouvèrent les gens de la Borde à propos de cet événement. Le lendemain, j'allais la voir à l'hôpital de Blois, l'ancien hôpital très beau au bord de la Loire. Je lui avais apporté, dans mon hébétude, des fruits et des fleurs. Je ne savais plus, comme cela arrive, à qui de vivant ou de mort je les apportais. Les fleurs, surtout, étaient idiotes. Elle regarda tout ça et sourit. Je m'acharnais à lui expliquer qu'on pouvait refaire un sein. Elle m'écoutait avec intérêt. Elle me dit « Tu as été très bien hier. » Puis, elle m'interrogea sur la mort de ma mère. C'est alors seulement que je pleurais.
Daniel Rouleau, article « L'avec schizophrénique » dans la clinique lacanienne, 2009.
J'en suis donc venue à la conclusion que la catastrophe schizophrénique inaugurale de la maladie n'est pas l'éclatement du moi, cicatrice des identifications, dit Freud, mais l'éclatement du narcissisme originaire, pré-spéculaire. C'est pourquoi j'ai parlé d'îlot de narcissisme originaire épars qui s'accroche à certaines personnes ou fragments de personnes de tout statut, à certaines matières, gouache, poterie, cuisine, sport. Il s'agit pour le thérapeute et pour l'institution de rassembler ces fragments épars, d'où l'importance du club thérapeutique qui tient ensemble ses activités et la présence des thérapeutes dans les réunions de ce club, les consultations journalières pour tenter de restituer à nos patients un tenant-lieu de sentiment continu d'exister, Winnicott, avec l'espoir de parvenir à un véritable sentiment continu d'exister. Après quoi, il restera à entreprendre une vraie psychothérapie psychanalytique, voire une psychanalyse adaptée à ses patients encore fragiles, avec le soutien du club et de ses activités, encore nécessaire pour les ramener à la vraie vie à travers ce que Cécile appelle l'accompagnement au miroir. Que veut-elle dire par là ? Il ne s'agit pas de l'apprentissage du comportement catégoriel de Goldstein, distinction d'une figure sur un fond, mais d'appréhender un visage. Ensuite, de reconnaître ce visage comme sien propre. Beaucoup d'auteurs philosophes ont écrit sur la visagéité, Lévinas, Agamben, mais Cécile n'en est pas là. Ce qui est en question dans l'accompagnement au miroir, c'est de parvenir au « y'a de l'un » de Jacques Lacan, qu'elle appelle curieusement la scène du trois. Par moments, elle se remet à marcher. Il y a le petit tour et le grand tour. Je l'ai accompagnée quelquefois dans le petit tour. Elle marche très très vite, la tête baissée en avant et rentrée dans les épaules, fixant le sol. Pour Cécile, pas de paysage, pas de fleurs sur les bas-côtés, des sentiers qu'elle arpente. Je l'accompagne, mais pour elle, je ne suis pas là. J'ai peine à la suivre. Elle s'en aperçoit quand même par moments. Je ne marche pas, je me précipite, s'excuse-t-elle alors. L'absence de paysage, c'est paradoxalement l'absence du Yadlin. Avant, je ne voyais rien, dit Cécile. Mes yeux étaient tout le temps dans les terrains vagues. Vous aviez une image dans le miroir et vous avez tout fait pour m'y laisser une place. J'ai vu, d'un coup, mon image dans le miroir. Mais je ne peux m'y supporter que comme une image vague, floue. Ça restait une image. J'ai vu mon image dans le miroir sans pour autant m'y reconnaître. Maintenant, j'accède au miroir, mais avec beaucoup d'angoisse. Mais heureusement, vous permettez que je retourne derrière le miroir quand j'en ai envie. Mais la tranquillité, ce n'est plus ni devant, ni derrière le miroir.
Ginette Michaud, Ariette et la pierre de folie, édition RS 2024. La robe rouge, un autre abord de l'espace du transfert. Depuis quelques semaines, Ariette me posait des questions sur mes couleurs préférées, sur mes vêtements préférés, dans lesquels je me sentais le mieux. Je compris que cela était en rapport avec une émission de télévision dont je lui avais parlé et où je devais être confrontée, comme analyste, à Méni Grégoire, un professeur connu de neurologie, et à deux journalistes, connus eux aussi, dont un du Nouvel Observateur. C'était une émission régulière, appelée « L'homme en question ». C'était l'année 1976. Le fait que je puisse être vue par elle en dehors des séances et dans une situation spéculaire, à travers un média, entraîna un comportement que je ne compris pas tout de suite. Elle me disait qu'elle ne pourrait me regarder, me voir et rester rassemblée, entière, présente et sans angoisse, que sous certaines conditions. Que j'apparaisse avec une tenue d'une certaine sorte, couleur et forme, qui me plairait et dont je puisse être sûre. Je pensais qu'elle anticipait le fait qu'elle aurait besoin d'un point d'accroche dans l'image, qui la représente et qui neutraliserait l'effet de séparation produit par l'écran, tout en maintenant un lien entre mon corps, la robe dont elle était partie prenante, et elle. Lors des séances au sol, il s'avérait que pour me regarder, il fallait qu'elle puisse ne pas me regarder en sachant que j'étais toujours là. Le lien étant maintenu par ma voix. Mais il fallait que je fasse corps avec ce point d'accroche. Pour en revenir à la robe, le point de jonction entre la robe et mon corps ne pouvait supporter d'écart, de vide. Le corps et la robe formaient un tout, d'où son soin, lors des essayages, de vérifier qu'il n'y avait pas de vide entre mon corps et le tissu. Pas de plis, pas de poche. Les coutures, c'est trop serré. Et dans le bas du corps, ça allait, il n'y avait pas de couture. Alors je comprenais qu'elle pourrait être sûre de me voir et se reconnaître comme complète en me regardant, car je porterais des choses sur moi dont elle s'était assurée de l'innocuité face à l'angoisse qui l'aurait potentiellement menacée, mais que nous aurions validé, et donc qui ne poserait plus problème. L'enjeu semblait important. À la moindre velléité de ma part d'exprimer un doute sur son désir ou sur le bien fondé de ma part d'y satisfaire, une montée d'angoisse très perceptible la saisissait. Et là, comme de nombreuses fois, sans comprendre, je fis ce qu'elle me demandait, entendant l'importance de la chose sans pouvoir la comprendre, sauf à appréhender l'imminence d'un danger si je ne satisfaisais pas à cette demande plus qu'insistante. Je me trouvais donc, pour l'émission de télé en question, porter la robe rouge qu'elle m'apporta, en alcantara, très doux. Robe très fermée, manches longues, parfaitement à ma taille, ce qu'elle avait contrôlé à deux reprises lors d'essayages avec Thérèse, son assistante. Elle implora que je l'essaye avant d'aller à la télévision pour qu'elle vérifie une fois encore que ça irait. Je le fis,
et elle partit de cette dernière séance sur la robe rouge avec une grande sérénité. Comment penser tout cela ? J'avais l'impression que je devais porter quelque chose dont je ne discernais pas l'importance, mais qui serait là, porté par moi et qui lui permettait, comme elle le disait, de me regarder, de projeter son regard. On sait depuis le début de son travail à quel point pouvoir regarder, projeter par le regard pour exister est important pour elle et problématique. Cependant, c'était à la condition pour elle d'être rassemblée, entière, non dissociée, dans la sécurité du vide hermétiquement clos atteint, comme elle l'explicitera plus tard. De même, la couleur rouge référera sans doute à l'accident qui était advenu à Loïc, sur lequel je vais revenir. Mais il fallait aussi que mon regard sur l'objet soit positif. Il fallait qu'il y ait du plaisir de ma part de porter le vêtement en question, le vêtement qu'elle m'offrait, qui certes était un dispositif par angoisse, mais qui devait m'apporter un supplément de plaisir perçu par elle, seule garantie pour elle de solidité. Je continue à recevoir Ariette, toujours avec cette interrogation sur la place de la robe rouge dans la cure, jusqu'à ce que je travaille les schémas optiques de Lacan, qui m'éclairèrent beaucoup sur la séquence de la robe rouge à la télévision.
Daniel Civadon dans Trialogue, exercice de schizoanalyse, conversation entre Daniel Civadon, Félix Guattari et Jean-Claude Polac. Retranscription d'enregistrement de 89 et 92, édité en 2022 par Ligne.
Elle a commencé à avoir une passion pour les vêtements qui ne l'a jamais quittée. À 18 ans, elle s'habillait elle-même avec des costumes invraisemblables, très choquants pour la ville d'Aix-les-Bains. Elle a fini par aller vivre avec un monsieur, Simon, qui avait son âge ou un peu plus, et possédait une péniche sur le lac d'Annecy. Ils ont vécu en faisant la route en Inde, Indonésie, le genre Katmandou, Babacool. C'était un couple écolo avant l'heure, communautaire. Ils ont eu une petite fille. Elle a accouché seule à Paris, car lui était déjà fou et interné en hôpital psychiatrique dont il n'est pas sorti. Depuis qu'elle est partie de chez elle, elle n'a jamais rien reçu. Aucune aide de personne, de sa mère ni de son père qui avait pourtant les moyens de le faire. C'est aussi un côté que j'aime bien chez elle, cette façon d'élever sa gamine toute seule, en faisant des petits boulots, en servant dans des McDo, dans des brasseries, tout en continuant, contre vents et marées, à tenter de percer du côté de sa passion du tissu et des vêtements qui l'a toujours accompagnée.
L'orphelinat, c'est quand ?
L'orphelinat, c'est entre l'âge de 2 et 4 ans, et pour des raisons qu'elle ne connaît pas et que je n'arrive pas à comprendre. Elle est née après la guerre, il n'y avait donc pas de raison de la cacher. Ce serait pour des raisons d'hygiène ou de santé ? Elle n'était pas folle, on n'est pas folle à 2 ans. Je ne sais pas, elle ne sait pas. C'était un orphelinat dans le sens où la plupart des enfants y étaient abandonnés définitivement. Elle n'en est sortie que parce que sa grand-mère paternelle est venue la chercher. Je ne sais même pas si les parents s'en seraient jamais souciés. Elle a peut-être été un peu en nourrice. Sinon, elle était avec sa grand-mère jusqu'à ce que ses parents la reprennent. Elle sait très peu de choses de tout ça. Comme elle ne les voit pratiquement pas, il n'y a aucun moyen de savoir. De temps en temps, elle va voir sa mère qui a l'air d'être une folle complète. Une professeure de lettres à la retraite qui récite du Baudelaire toute la journée et semble incapable de lui dire quoi que ce soit. Avec son père, qu'elle voit rarement, ils s'engueulent dès qu'ils se rencontrent. J'ai toujours eu l'impression qu'elle avait attrapé un petit bout d'autisme, en particulier dans la façon dont son corps est composé de scènes douloureuses multiples. Parfois, c'était les oreilles, une autre fois, les poumons. Elle arrivait ainsi dans mon bureau, gravement malade parce qu'elle fumait trop, asphyxiée. Il fallait ouvrir les fenêtres. D'autres fois, c'était le dos. Il y a toujours un bout de corps qui déraille et surtout, de manière constante, elle est vaguement anorexique. Je dis vaguement parce que quand elle est avec des gens, elle s'alimente très bien. Mais dès qu'elle est seule chez elle, elle oublie de manger. Elle est très maigre, elle a une allure d'anorexique ou de mannequin. Visiblement, il lui manque quelques kilos. Elle serait capable de ne pas manger du tout pendant longtemps. Elle a aussi des rituels que je n'ai jamais réussi à éclaircir. J'ai compris qu'elle a un grand réfrigérateur dans lequel elle entasse les courses qu'elle fait assez régulièrement. Elle doit nourrir sa fille. Elle fait néanmoins des courses disproportionnées par rapport à leur consommation. Et tout de suite, à côté, accrochée à la poignée du frigo, il y a la poubelle où elle vide directement tout ce qui commence à être périmé. Une espèce d'installation intestinale.
Une digestion extracorporelle ?
Oui, alors qu'elle-même est complètement atterrée par tout ce qui peut ressembler à la digestion. Je pense qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Pratiquement à toutes les séances, elle vient en disant sa peur majeure d'oublier de s'alimenter. Comme je la vois depuis 4-5 ans et qu'elle n'est pas morte, je ne m'inquiète pas. Et elle ne maigrit pas. Stéphanie, sa fille, doit avoir 14 ans. Elle ne connaît pas l'existence de son père. Elle croit qu'elle est la fille d'un homme qui s'appelle Loïc, qui est comédien et a vécu une dizaine d'années avec Véronique de ses 3 à 12 ans. C'est un homosexuel. Ils ont une relation sexuelle ensemble pendant quelques années. Il était homo sans qu'elle s'en rende compte. Il entretenait une relation avec un vieux monsieur qu'il appelait son parrain. Petit à petit, ils se sont séparés. Il est parti depuis 2 ans aux États-Unis après avoir adopté Stéphanie. Elle va le voir assez régulièrement. Il ne paye pas de pension alimentaire, c'est un comédien plutôt fauché. C'est lui qui a donné une ampleur particulière à sa passion des vêtements. Ça se remarque assez peu quand on la rencontre régulièrement parce qu'elle ne porte pas les vêtements qu'elle achète, toujours dans des boutiques de troc ou aux puces ou qu'elle fabrique elle-même.
Elle les met au frigidaire.
Elle les porte toute la journée. Et au moment de sortir, elle met un jean et un pull. Avec Loïc, elle pouvait pousser le jeu jusqu'à une mise en scène de travestie. Là, elle portait des tenues incroyables. Elle est très belle. Et ils allaient dans des boîtes invraisemblables. Sinon, elle sort très peu de chez elle, à part les séances. Elle me donne l'impression d'être retenue par la couture.
Daniel Rouleau, article « L'avec schizophrénique » dans la clinique lacanienne, 2009.
Voici ce que Cécile et Simone ont écrit. À partir de cet étayage fondamental, Cécile et moi, pas à pas, ombre à ombre, arrivons dans ce lieu-là, thérapeutique et référentiel de la Borde, sans être terrorisés par l'angoisse du vide des autres. Simone et moi, il nous arrive de ne pas nous quitter, mais le tissu institutionnel nous permet parfois de nous séparer dans des lieux et des temps différents, la pharmacie, lingerie, médecin. Demeurant toutefois incertaine de notre présence en ces différents lieux, Simone est le premier corps autre, autant qu'il m'en souvienne, qui m'est donné un corps mien. Ne fantasmez pas, si vous voulez bien entendre le silence profond de notre rencontre sur une hypothétique relation sexuelle qui n'existe pas entre nous. Simone étant résolument hétérosexuelle et moi asexuée pour la fin du premier jour. Le réel est très dur à parler, et plus encore à terre. La veillance dans la relation thérapeutique qui nous concerne, moi en tant que schizophrène et Daniel Rouleau en tant que psychothérapeute, m'aide à faire face à cette relation fondamentale depuis le jour fantomatique où je suis née. C'est quoi être incarné? Et si cela est d'occuper le corps, quel en est le prix? Si le plus important, mais risqué pour les acteurs, thérapeutes et schizophrènes, et à ce niveau-là, qui est réellement concerné, est la révolution du lien réel, l'étayage essentiel et premier, et sans lequel il ne pourrait pas y avoir de transfert. Il s'agit de rencontrer avec son thérapeute un tout autre, non pas un tout seul, mais le premier tout autre. En ce qui concerne les angoisses, elles sont toujours là. Je, G-U-X, de leur présence immémoriale. Elles se sont déplacées derrière le miroir, vers l'anéantissement subi sans même le vertige d'un effondrement. Abstraction totale de toute subjectivité. Tout fout le camp. La mémoire avec. Mais nous arrivons progressivement, l'une pour l'autre, en rapport avec le monde entier, à être deux par l'être. Le transfert direct que je connais et peux reconnaître n'est pas pour moi de fantasmer le thérapeute, ni pour lui de m'inventer. Une rencontre phénoménologique est simplement une rencontre vraie, réelle et insaisissable, sans attente d'un paysage de la réalité psychique.
Rosemarie Lepage dans « Salomé et son psychiatre, récit d'une expérience psychotique » par Rosemarie Lepage et Christophe Chapreau, édition L'Harmattan, 2015.
29 mai 2014. J'essaye de me rassembler. J'essaye de ne pas trop souffrir. L'hôpital me sert de corps, puisqu'il est toujours. Depuis 2 jours, ce brouillard épais. Mon corps est ouvert sur le dehors. Il ne me contient pas. Je suis éparpillée, explosée. Attendre. Je me sens transparente. Mon corps s'évapore. Je m'évapore dans l'air.
Ailleurs, Salomé danse.
Je me souviens un peu de ma toute première hospitalisation, mais elles se confondent toutes. C'est la 2e fois que je viens à la cafétéria pour écrire. Je pars dans mes pensées. J'essaye de la revoir, cette jeune femme chétive et apeurée, déambulant dans les couloirs ou terrée dans un coin. Mais aussi celle qui essayait de danser à la cafette lors d'une fête. La danse, qui était un moyen d'expression privilégié pour moi et que j'ai retrouvé petit à petit, cette impression de voler tout en unifiant un corps morcelé. Celle qui avait gagné à un prix de karaoké organisé par l'hôpital et qui avait été émue, touchée. Petite victoire, petit pas.
Hélène Chéniaud, échange sur les pieds et l'assise, lettre à Jean-Louis Giovannoni, 1993, publiée dans la Revue des sciences humaines.
TGV Grenoble, le 28 mai 93. Sans doute y a-t-il quelque inconvénient à ce que je ne puisse guère écrire que dans un train, voire dans un avion. Je me suis sérieusement posé la question d'un abonnement sur un train en Île-de-France. Cela fait des frais. Quoi qu'on pense, et qui me garantit qu'une fois qu'on pris l'abonnement, ne disparaîtrait pas le charme. N'empêche, 1 mois d'écart entre le début de la présente lettre et la fin, ou peut-être seulement la suite, c'est insatisfaisant. On ne se remet pas comme on veut dans les chaussures qu'on percevait 1 mois plus tôt. Depuis ce mois, les arbres ont pris beaucoup beaucoup de feuilles, les coquelicots triomphent des broussailles, et depuis le train, bien souvent, le sol se dérobe à la vue. Dans les fourrés que j'aperçois, on ne peut imaginer la marche que contrariée par d'envahissantes lianes ou branches épineuses. De quoi distraire de la question du contact au sol par la plante, la voûte plantaire. Me voici transportée vers les plantes, celles qui prennent racine au détriment de ma plante à moi qui m'onimise. Et surgit la question de la connivence entre le végétal et l'humain, question qui, somme toute, ne m'est pas familière. Qui me fait apparaître une immense différence entre ce qui s'implante et ce qui marche, qui me dévoile combien je traite en étranger, tout ce qui peut survivre n'entretient pas avec la terre un contact discontinu, mais la sollicite comme nourricière et comme support stable. À la terre, mes pieds posent la question de l'univers.
13, charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique, édition La Découverte, 2023.
Lorsqu'on l'a faite, on se souvient souvent précisément de l'activité chorale en pays psychiatrique. Pour des raisons très différentes certainement, ça serait intéressant que chacun explique pourquoi. En ce qui me concerne, c'est quelque chose d'assez grave et c'est corporel. Ça s'est écrit dans mon ventre. On nous a mis en arc de cercle. Pour une fois, on est debout. Avec le temps passé au lit, c'est presque une aventure de tenir la position debout. Je me sens haute d'un coup. Nous formons une poignée en éventail. Je suis sur le côté de l'arc. Je regarde les ventres. On dirait que ça se tord. Ça a commencé. Faux départ. Perdu dans mes yeux, je n'avais pas encore sorti mes oreilles. J'entends que c'est pas grave. Que ça recommence depuis le début, pour moi. Ça y va dans les chansons fastoches à mémoriser du répertoire franchouillard. On dirait le Sud. Quelle sale idée, cette chanson. Déjà, être debout, c'est l'effort. Alors, depuis le bout de mon rouleau, des pensées parano difficiles à chasser plein les coins de la tête, chanter l'été, c'est comme une expédition d'alpiniste. Et je sens fort que je n'ai pas la préparation pour cela, que je risque la blessure. J'essaye quand même, puisque c'est l'exercice et qu'ils ont décrété que c'est bon au moral. De toute façon, ils ont les moyens de décider pour moi. Je sais que ma volonté de faire des choses est scrutée de près. J'ai des médocs pour ça. C'est à cause de ça que j'essaye. D'ailleurs, ma tête est OK pour obéir. Le problème ne vient pas de là. C'est ma voix qui casse. J'ai les entrailles qui verrouillent. Mon ventre, lui, sait les choses. Il sait que chanter me fait vibrer de plaisir. Il sait comment ça me fait me sentir puissante. Il n'oublie pas que, toute petite, j'escaladais mes peurs en chanson. Il sait que je combattais les souris qui filent et les chiens qui grondent avec des notes de musique. Il sent la confiance que j'y mets. Il sait par héritage familial que chanter est un outil de survie. Il voit loin. Il a déjà compris que mettre en souffle mes émotions m'amènera un jour à ne plus les mettre en stock. Alors bien sûr que mon ventre n'est pas d'accord et qu'il ne peut pas laisser ma tête répondre à une injonction merdique. Il faut protéger les ressources. J'essaye de chanter en vain. Je découvre commencer d'avoir mal aux cordes vocales. Je découvre comment ça fait quand les soucis font les bouchons au fond de la gorge. Je savais que je n'étais pas prête pour l'expédition. Je me dis, tiens, une nouvelle douleur que je ne connaissais pas. Le nœud au bide, je connais par cœur, mais là, ça me fait des sensations dans toute la colonne, ça serre l'œsophage, ça brûle jusqu'à la bouche. Cette idée à la con de chanter sur prescription me cause beaucoup de tort. On dirait qu'elle m'est servie comme une énième cerise sur un gâteau déjà bien plein. Avant cette chorale, je savais chanter. Mais là, dans la poignée en éventail, j'ai envie de dégueuler. À cette époque, je ne connais qu'une seule façon de me protéger, j'oublie très fort le chemin. Je continue longtemps à calciner les clopes. Le plein de fumée dans mes poumons, c'est pour éviter de voir trop précisément le souffle de vie poisseux que je me coltine. Quant à cette fracture vocale, je mettrai 9 années à retrouver la voix.
Rosemarie Lepage dans Salomé et son psychiatre, récit d'une expérience psychotique par Rosemarie Lepage et Christophe Chapreau, L'Harmattan 2015.
L'hôpital psychiatrique, pour moi, c'est un ensemble. Une équipe et puis des tentatives de soins qui forment aussi un ensemble pour aller mieux. Ce sont ces tentatives multipliées qui font que je vais mieux aujourd'hui. L'hôpital, pour moi, a quelque chose de contenant, qui aide à se relever quand on est tombé. Quelque chose qui aide à tenir debout. Les murs de l'hôpital m'apparaissent, et m'apparaissent encore, solides. Tout comme j'ai fait l'expérience des enveloppements humides, j'ai fait du jardinage, de la danse, de la peinture, de la cuisine, de la poterie, du tennis, et j'ai écrit. Ces activités qui sont mises en place participent au fait de se sentir encadré, mais surtout soutenu. L'hôpital dessine un cadre et apaise, un peu, l'angoisse. Il y a une réunion toutes les semaines à l'hôpital, c'est la réunion du club thérapeutique. Y assistent soignants et soignés. Sont mises en place des activités. Ce qui m'a particulièrement aidée, c'est la cafétéria, qui est tenue par les patients. Il y a un planning et lors de la réunion, des volontaires s'inscrivent. Je ne sais pas au bout de combien de temps je me suis inscrite. Au début, je côtoyais la cafette, juste comme cela, souvent à l'occasion des visites de ma famille lorsque j'étais hospitalisée. C'est un endroit vraiment très chaleureux. On peut y emprunter des livres et puis regarder la télé, boire un coup. Cet endroit m'a beaucoup marquée et j'y retourne volontiers quand j'ai mon rendez-vous avec le docteur Chapreau. Même, des fois, j'ai envie d'y aller, comme ça, mais je n'ose pas. Mais ça me manque, quelque chose de cet endroit. De cette ambiance me manque. Les personnes là-bas sont très différentes, toutes à leur manière. Elles sont tellement différentes que l'on ne sent plus le jugement. que je ne sens plus le jugement. Une chaleur humaine, un cadre, des solitudes qui se croisent, se rencontrent pour se tenir chaud, voilà ce que j'y trouve. Trouvais. Et j'ai commencé à tenir moi-même la cafétéria.
J'ai commencé à tenir moi-même la cafétéria.